Raphaël Delvolvé.
Bonjour Eric Delvaux.
Avec à la une ce matin, Nantes qui remporte la Coupe de France de football. Victoire contre Nice hier soir au Stade de France. Le récit de la soirée dans quelques instants. Après les autres titres, Raphaël.
Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui 8 mai, 77 ans après la guerre et de retour en Europe. Hier, lors de son investiture, Emmanuel Macron s'est engagé à faire de la défense un thème central de son second quinquennat. Nous irons aussi au Brésil où Lula a officiellement lancé sa campagne pour la présidentielle d'octobre hier à Sao Paulo. Et puis l'heure des bilans. Au dernier jour des vacances de printemps, le secteur du tourisme reprend des couleurs. Reportage dans le bassin d'Arcachon.
Notre invité ce matin à 8h20, ce sera à propos des célébrations du 9 mai demain en Russie. On va en parler avec une spécialiste de la Russie, Marie Mindras.
France Inter.
C'était trop bien!
C'était trop bien, on a gagné, on est champions!
1-0, allez Nantes!
Ouais, on est les meilleurs!
Eh oui, la fin d'une disette de 21 ans, ça soulage et ça rend fou de joie, petits et grands. Vous entendez les supporters nantais quelques instants après la finale de la Coupe de France de football. Hier soir, victoire des Canaries 1-0 contre les Aiglons, Nice, dans un stade de France en grande partie coloré de jaune et vert. Le récit de Nicolas Perronnet.
Un pénalty pour entrer dans la légende à la 47e minute. Le seul but de cette finale inscrit par Ludovic Blas, le capitaine nantais, avant de soulever la coupe.
C'est beau parce qu'on rentre dans l'histoire du FC Nantes. On écrit notre nom sur cette histoire-là qui est énorme, ce club mythique. On n'a pas envie que ça s'arrête.
Les milliers de supporters nantais non plus, eux qui ont envahi le Stade de France, remportaient aussi le match des tribunes. Le milieu de terrain espagnol, Pedro Chirivella.
C'est incroyable, sur Paris c'était tout jaune et vert. C'était comme si on jouait à la Beaujoire et très content pour nous, mais aussi très content pour tous les supporters.
La communion se prolonge alors que les supporters niçois, eux, ont déjà quitté le stade depuis longtemps, un moment gravé pour l'entraîneur nantais Antoine Camboire, sacré avec son club formateur.
Tu dis c'est fini quoi, ça y est, la coupe elle est à toi. Il peut se passer ce qu'on veut, le Covid peut venir, ça y est, on a la Coupe de France, elle est chez nous, quoi. C'est marqué à vie. C'est encore plus incroyable d'où on vient. L'année dernière, donc, on jouait pour ne pas descendre en Ligue 2, on allait crever, et puis aujourd'hui, on va faire la Ligue Europa. On n'était pas invité, nous.
L'ivresse à venir des matchs européens après celle de la Coupe de France, l'Europe que le FC Nantes n'a plus connue depuis 2004.
Le récit de Nicolas Perronnet.
Emmanuel Macron est attendu en fin de matinée sur les Champs-Élysées. Le président va raviver la flamme du soldat inconnu en ce 8 mai.
Le jour anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale tombe cette année au lendemain de la réinvestiture de président. Et en plein conflit en Ukraine, durant le quinquennat Macron II, la défense de la France et de l'Europe sera l'une des priorités du président réélu. Dans sa brève allocution d'investiture hier, Emmanuel Macron a dit vouloir bâtir une nouvelle paix, mais aussi une nouvelle autonomie européenne. Éric Biegala, cela passe par un renforcement des capacités militaires françaises et une accélération du vaste chantier de l'Europe de la défense.
L'objectif affiché dès 2017 reste le même, dépenser 2% du PIB français en matériel et équipement militaire. C'est d'ailleurs l'objectif de tous les pays de l'OTAN. Durant le second mandat d'Emmanuel Macron, les armées poursuivront donc leur modernisation avec de nouveaux avions Rafale, avec le renouvellement du parc de véhicules blindés d'infanterie, mais aussi avec de possibles innovations dites de rupture, comme un missile hypersonique ou du camouflage optique pour les véhicules de combat. Au programme du renforcement des armées, on trouve aussi le doublement du nombre de réservistes opérationnels. Quant à l'Europe de la défense, elle n'a pas avancé aussi vite que prévu. La force opérationnelle Takuba au Sahel, par exemple, a été plombée par la fin de l'opération Barkhane. Le projet d'avion du futur, le SCAF, est paralysé par la rivalité industrielle franco-allemande. Même le nouveau fonds européen de défense a été revu à la baisse, 8 milliards au lieu des 13 prévus initialement. La guerre en Ukraine conduira probablement les Européens à amplifier l'effort commun, notamment, et c'est dans le programme du candidat Macron, en définissant une doctrine commune de défense. Pas forcément évident dans une Europe où nombre de pays ne jurent en la matière que par l'OTAN.
Éric Biegala, voilà, une large partie de l'Europe célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui. En Russie, les commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie, c'est demain. En Ukraine, les autorités craignent que Vladimir Poutine ne se saisisse de cette occasion pour intensifier l'offensive russe sur le Donbass. À Mariupol notamment, où la dernière poche de résistance, l'usine Azovstal, n'abriterait plus que quelques défenseurs après les évacuations de civils menées cette semaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en parle parlera ce dimanche lors d'une réunion virtuelle avec les dirigeants du G7.
Au Brésil, Luiz Inácio Lula s'est officiellement jeté hier dans la bataille de la présidentielle.
À Sao Paulo, où l'ancien président a rassemblé 4000 partisans, c'est la sixième campagne électorale de Lula. Il s'attend à ce que ce soit l'une des plus difficiles, l'une des plus tendues. Son rival, le président sortant Jair Bolsonaro, déjà en campagne depuis plusieurs semaines, n'a de cesse d'attaquer le système électoral brésilien. À Rio, Anne Vigna.
C'est dans un palais des expositions à São Paulo que Lula a lancé hier sa campagne présidentielle. Devant un drapeau brésilien, l'ancien chef de l'État a fait un long discours en promettant de récupérer l'économie et la souveraineté du pays. Et il a appelé les militants à débuter la campagne.
Nous allons commencer à bouger dans ce pays et nous voulons beaucoup de gens dans les rues et personne ne doit avoir peur de la provocation. Nous allons gagner, à bientôt camarades.
Lula tente bien de rassurer ses troupes plutôt inquiètes. Non seulement la campagne pourrait être violente, mais Jair Bolsonaro menace sans cesse le système électoral brésilien, comme le souligne Bruna, venue aussi écouter Lula.
Cela ne va pas être comme les élections habituelles, avec des débats d'idées où les candidats respectaient le résultat des élections. Donc même si nous gagnons, ce sera très difficile, comme cela s'est passé aux États-Unis avec Trump. Il y aura une remise en question de ce résultat.
Les craintes pour la démocratie brésilienne sont réelles. L'ancien président a donc choisi pour vice-président un ancien adversaire politique issu des rangs de la droite traditionnelle, dans l'idée de rassembler le plus large possible face à l'extrême droite. Rio de Janeiro, Invigna, France Inter.
Et nous parlerons également de politique à l'étranger dans le journal de 8 heures. Nous irons en Irlande du Nord où les nationalistes du Sinn Féin accèdent au pouvoir après leur victoire aux élections locales, une première en 100 ans d'existence du pays.
C'est aujourd'hui le dernier jour de vacances dans ce qu'on appelle la zone C.
Oui, les Parisiens ou encore les Toulousains reprennent l'école demain, ces vacances de printemps ou encore favoriser la reprise du tourisme, secteur ô combien touché par la pandémie de Covid. Allons dans le bassin d'Arcachon où le taux de remplissage des hôtels et des campings frise avec les 85%, quasiment les niveaux de 2019. Il faut dire qu'en plus de la clientèle française, les touristes espagnols et britanniques, eux aussi, faisaient leur retour cette année. Reportage sur place de Stéphane Iscock.
Et malgré une deuxième semaine de vacances pluvieuses, les touristes ont largement profité du bassin et de ses capacités d'hébergement. Confirmation avec Frédéric Dugénie, directrice d'Arcachon Expansion et responsable de l'office de tourisme.
Le taux de fréquentation des vacances est plutôt très satisfaisant. En tout cas, au-dessus de 2019, qui reste une année de référence sur un fonctionnement en vacances de printemps. Donc on est à peu près à 45% de remplissage pour les meublés, entre 70 et 85% de remplissage sur le reste des hébergements. Et en tout cas, par rapport aux appels et aux questionnements, on se rend bien compte que les gens ont envie de partir et on retrouve aussi une clientèle étrangère.
Des Espagnols pour Pâques, c'est une tradition, mais également des Britanniques qui sont de retour après 2 ans d'absence. Dans les campings, on prépare une très belle saison estivale. C'est le cas au Kerelen du Teche, son patron Lionel Pujade.
Je pense que ça va être un très très bon cru. Il n'y a pas photo, on a eu des réservations très tôt. Là, on est pratiquement complet pour toute la haute saison, en gros, les vacances scolaires du 9 juillet au 27 août, le week-end de l'Ascension. Pareil, on est pratiquement complet. Le week-end de la Pentecôte, on est pratiquement complet. Et juin, tout se jouera sur la météo, quoi. Et tous les petits retraités, tout ça partiront. Si pareil, s'il fait beau, s'il fait chaud, il n'y aura pas de problème.
Une interrogation tout de même, quel sera le pouvoir d'achat des touristes de 2022?
Un reportage dans le bassin d'Arcachon, signé Stéphane Iscock.
Et Raphaël Delvolvé pour le journal. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et avec une bonne douceur cet après-midi, Jean-Michel Golinski.
Ah, c'est vrai que des températures en hausse par rapport à hier dans la moitié nord, stationnaires ou en légère baisse au sud, mettant ainsi pratiquement toutes les régions vers 23 degrés de moyenne cet après-midi. Alors, sauf près de la Manche et sur le Pays Basque, où il fera quand même plus frais, vers 16 prévus sur la pointe du Cotentin, 18 au Havre, ainsi qu'à Biarritz, avec un temps souvent bien gris en ce début de journée au nord de la Loire, mais l'évolution sera favorable, avec toutefois un risque d'ondée à signaler pour l'après-midi sur le centre du bassin parisien au nord-est. Dans la moitié sud, large ensoleillement du Morvan à la Nouvelle-Aquitaine, tandis que des Pyrénées à l'Auvergne, de la vallée du Rhône aux Alpes et sur la Corse, l'ambiance sera quand même assez instable et souvent orageuse en seconde partie de journée en montagne.
Jean-Michel Golinski, Météo France.